Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre épisode de Première Loge. Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey sont enfin commencées. On a eu les premiers matchs hier soir, on enregistre donc le 18 avril. Et pour le moment, je suis en compagnie seulement de Grégory Hamel. Comment ça va, Greg?
Ça va bien, pas trop fatigué malgré la fin de match assez tard hier. Ça a été une méchante bonne soirée pour une première en série. Donc, j'espère que ça va être autant le fun à regarder, vraiment.
Ouais, ce soir, on a plusieurs matchs Rangers-Devils. Et j'en passe, là, bref. Et la deuxième soirée qui se déroulera, en fait, qui se déroule très bientôt parce qu'on enregistre ça juste avant que les matchs de ce soir commencent. Et on a Vincent Tardif aussi qui pourrait nous rejoindre durant ce podcast-là. Vincent qui a certainement son mot à dire dans la défaite des Oilers, entre autres. Mais Greg, on va commencer par ce qui est du match. Le premier match de la soirée hier, c'est-à-dire Hurricanes-Islanders. Il faut dire, les matchs de l'Est ont été peut-être un résultat moins surprenant. Et pas de prolongation non plus du côté de l'Est. Tandis que ça a été l'inverse du côté de l'Ouest, mais on va y revenir plus tard. Donc, pour ce qui est de Hurricanes-Islanders, victoire donc des Hurricanes 2-1. Sébastien Aho, Stéphane Nosen qui ont marqué pour les Hurricanes. Ryan Pollock a marqué également du côté des Islanders. Un but que Antti Ranta aurait... C'est un but très, très faible là, du côté de Ranta, mais... C'est quand même une victoire des Hurricanes. Comment t'as ressenti ce match-là, Greg?
Ben écoute, c'était un match un peu plus calme pour débuter le tout. Là. C'était pas exactement comme un match, comme tu as mentionné, dans l'Ouest. Là. On dirait vraiment que c'était les séries là, qui commençaient à 9h30 hier. Mais je vous ai Boston aussi, c'était une très bonne partie. Mais j'avais l'impression qu'entre les Islanders et les Hurricanes, c'était un match qui était beaucoup plus défensif, que les deux équipes s'apprivoisaient un peu plus. Il n'y avait pas beaucoup de flash offensif vraiment des deux côtés à 5 contre 5. Je trouvais les deux buts des Hurricanes se sont passés en avantage numérique. Aussi, les meilleures chances des Islanders, c'était probablement dans la dernière minute quand le gardien avait été enlevé, donc à 6 contre 5. C'était un match qui était un peu plus monotone. On s'est habitué un peu à ça avec les Islanders, là, c'est leur style de jeu. Peut-être que ça pourrait leur avantager. Plus tôt dans la série quand les équipes vont être plus fatiguées, mais les Hurricanes ont été capables de tenir le coup là, hier.
Vraiment, puis tu parles du système de jeu d'Islanders qui est, oui, on le sait, très défensif, même avec Barry Trotz qui n'est plus là, ça reste quand même un système de jeu qui est très défensif. Et ben en tout cas, hier, ça a les Hurricanes, on voit qu'ils sont capables de jouer ce style de jeu-là parce que vraiment, hier, ils ont imposé leur rythme, puis jamais, à part un but de Pura qui est sorti un peu de nulle part, les Islanders se sont manifestés vraiment offensivement. C'est un match extrêmement tranquille offensivement du côté des Islanders. Puis j'aimerais que tu me parles de Brent Burns, qui est un joueur du côté des Hurricanes qui devait se lever pour cette série-là, et il l'a fait hier avec une très grosse performance, notamment deux passes.
Oui, on l'a vu, il avait des très bons flashs offensifs. C'est lui, je pense, c'est un des défenseurs qui vraiment générait le plus du côté offensif. Je pense que les Islanders ont beaucoup de défenseurs qui sont beaucoup plus orientés vers le jeu défensif. On parle de Pollock, Pellec, c'est une des meilleures paires défensives selon plusieurs stats avancées. Mais Burns, côté Hurricanes, on voit qu'il y a un bon mix de joueurs qui peuvent autant s'impliquer offensivement que défensivement. Burns, je veux dire, Shea a 17 buts, je pense, cette année. Gustis Burst, c'est aussi un gars avec un bon flair offensif. Puis aussi les joueurs plus défensifs comme Pesci, Slavin, puis tout ça. Donc, c'est un bon mix. Puis, tu sais, c'est une équipe qui est taillée un peu pour jouer contre les Islanders puis performer contre les Islanders parce que justement, ils ont ce mix-là de joueurs qui peuvent autant faire la différence dans leur zone que dans la zone adverse. Puis Burns, je veux dire, hier, il y a eu deux passes, comme tu as mentionné, mais aussi, je pense qu'il y a eu une couple de belles montées vers le filet. Puis ça a été un joueur qui a fait la différence. Ben, pas la différence, mais qui a fait une bonne. Qui a joué une bonne partie hier.
Ouais, on passe entre autres au but à Aho, là, qui est. Aho s'est bien libéré, la passe traversale de Burns. C'est un jeu qu'on a essayé de reproduire ensuite du côté des Hurricanes, que finalement, les Islanders ont été capables de couper, mais ouais. si la série se déroule ainsi pour le reste et que les Islanders ne sont pas capables de produire plus d'offensives que ça, selon moi, ça va aller du côté de Hurricane, cette série-là. Mais Ranta, il faut qu'on parle de Ranta, là, ça aurait pu virer en catastrophe si les Islanders avaient été en mesure de marquer un autre but parce que c'était un but que tu dois absolument arrêter. Là, ouais. Très faible, qui a dévié sur son bâton. Ouais, vas-y.
Ben, j'ai été un peu surpris, honnêtement, de voir Ranta commencer la première partie. Il y avait un débat là-dessus. Anderson, qui a quand même été c'est pas la meilleure saison de sa carrière. Là. Je pense qu'il est peut-être en bonne 900, ou en tout cas, il l'était pendant une bonne partie de la saison. Il était blessé. Mm-hmm. Aussi, peut-être qu'il a fait plus confiance que Kochetkov, qui c'est un gardien recru. Ouais. C'est aussi démarqué cette année. Mais là, côté expérience, peut-être qu'il Ranta définitivement l'avantage quand même. J'ai été surpris de l'avoir commencé devant le filet pour la partie numéro 1. Mais comme tu as mentionné, il a laissé un but qu'il aimerait revoir. Par contre, il a été capable de limiter quand même les Islanders à un seul but.
Est-ce que tu mettrais Anderson prochain match?
C'est difficile à dire parce qu'il a quand même remporté, il a juste seulement laissé un but. Puis je pense pas que ce but-là va peut-être changer la donne là, côté des Hurricanes. Je pense que ça va être intéressant de voir, mais je pense pas qu'ils vont changer une recette gagnante. Mm-hmm. Puis côté Islanders, rapidement, Sorokin quand même a gardé son équipe dans le match là, avec plusieurs arrêts assez solides. Là.
Ouais, 35 arrêts sur 35 tirs, je crois, sur Sorokin. Lui, on est sûr qu'il n'y aura pas de changement de gardien de ce côté-là. Puis on le savait là, que ça serait la clé pour l'Islanders. Et malgré un manque très flagrant d'offensive, ça finit seulement à un but d'écart ce match-là, entre autres à cause de Sorokin. Bon, voilà, premier match coché. Deuxième match. T'en as parlé un peu tantôt, un bon match quand même. Bruins contre Panthers. Victoire de 3-1 des Bruins. Pasternak qui marque en avantage numérique tout un but, là, toute une passe de, j'étais un peu tout dit, je crois, là, là-dessus. Et les Bruins qui imposent leur rythme dès le début de match. Marchand ensuite, donc les gros canons des Bruins. Ketchuk qui va d'un beau but ensuite faire 2-1. Et finalement, Jake DeBrusk en deuxième période aussi. Pas de but en troisième. Donc, les Bruins qui démarrent comme on s'attendait un peu à les voir démarrer là, en force. Les Panthers, est-ce que tu as vu du côté des Panthers quelque chose qui pourrait te faire dire qu'il y aurait une chance de revenir dans cette série-là ou pas du tout?
Ben écoute, c'est difficile. Je pense qu'ils ne sont quand même vraiment pas laissés impressionner. J'ai quand même été impressionné par leur match. Là. Je pense qu'ils étaient arrivés prêts. Malheureusement, leur adversaire, c'est les Bruins. Ils ont tenté de battre Ullmark, surtout plus au côté volume. Je pense qu'ils ont fini avec plus de lancers que les Panthers, que les Bruins. Mais en tout cas, ils ont mené au niveau des lancers pas mal toute la partie.
Tandis que 32-29 en faveur des Panthers, les tirs.
Ouais. Fait que les Bruins, j'ai l'impression, eux, ils ont un peu moins de lancers, mais leurs lancers, c'était des zones beaucoup plus dangereuses. On a vu Lyons s'illustrer à plusieurs reprises, je pense, à 2 contre 1. Je pense qu'il a volé Trent Frederick à 2 reprises, des arrêts de toute beauté. Je pense que Lyons a quand même connu une très bonne première partie, un bon matin dans les séries de la Ligue nationale, malgré le fait qu'il a laissé un but qu'il aimerait aussi revoir sur Marchand. Là, c'est sûr, tu vas arrêter cette rondelle-là. Un but un peu plus malchanceux, celui de DeBrusk. Côté Pasternak, il n'y avait pas vraiment de chance là-dessus. Là. C'était un but, comme tu as mentionné, de toute beauté. Je pense que Lyon, tu ne peux pas vraiment lui reprocher malgré le fait que le but de Marchand. Je pense que quand tu affrontes une équipe comme Boston, c'est des choses qui vont arriver. Ils occasionnent. Ils ont tellement d'occasions. Ils génèrent tellement d'attaques qu'à un moment donné, tu vas te faire battre par des jeux comme ça. J'ai quand même été impressionné par le jeu des Panthers. Par contre, je pense pas qu'ils vont être en mesure. Je ne change pas mes prédictions. Je pense pas que les Bruins vont te faire surprendre.
Je suis d'accord avec toi. J'étais hésitant à les mettre en 5 ou en 6. D'ailleurs, vu leur performance d'hier, je me dis peut-être que 2 matchs, c'est réaliste vu que j'ai mis un 6. Ça se peut que ça soit seulement 5 ou même 4 aussi. Mais les Bruins, tu le vois que c'est une équipe qui est favorite. Tu parlais de Lyon. Oui, il a connu un bon match, a fait de très bons arrêts, tu l'as mentionné. Par contre, tu sais, un but comme ça que tu laisses à Marchand, c'était le deuxième but de la rencontre. Après ça, si ce but-là n'existait pas, ça aurait pu être 1-1 ce match-là avec le but de Tkachuk par après. Donc, si, je suis d'accord que je ne dis pas d'y aller avec Bobrovsky nécessairement au prochain match. Là, Lion a fait de très bons arrêts. Mais tu vois à quel point les gardiens sont extrêmement importants dans les séries. Puis qu'un un mauvais but, c'est un but de trop. Puis voilà. C'est très dommage pour Alex Lyon qui a, tu le fais bien de dire, fait de très bons arrêts malgré ça. Tu allais rajouter quelque chose?
Ça a été. C'est un point d'interrogation dans le filet. Ça fait, je me rappelle même pas c'est quand là, qu'il y a eu un bon gardien, les Panthers, qui ont été capables de les amener loin en série. Je veux dire, c'est. Ils pensaient peut-être avoir trouvé la recette avec en repêchant Spencer Knight. Finalement, une semaine plus tard, ils signent Bobrovsky pour 10 millions. C'est beaucoup de questions à ce niveau-là, à cette position-là. Puis là, finalement, tu repêches ce gardien en première ronde. C'est rare qu'on voit des gardiens repêchés en première ronde. Après ça, tu donnes 10 millions à un gardien en free agency. J'oublie le terme en français. Dans le marché des agents libres.
Oui.
Puis finalement, quand tu arrives en série, tu fais jouer un gardien qui joue dans la Ligue américaine. Je pense pas que toute la saison, il jouait jouer dans la Ligue américaine quasiment. Il est arrivé pour le dernier mois. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même inusité. De laisser un gardien de 10 millions sur le banc quand tu affrontes une équipe comme ça. Surtout que Bobrovsky, c'est lui vraiment qui avait éliminé le Lightning un peu en 2019, là, quand c'était l'équipe qui avait fini une des meilleures saisons d'une équipe en 2019, puis c'est lui qui était allé les balayer. Donc là, c'est une situation, des circonstances un peu similaires. Donc je pensais peut-être qu'on allait aller vers Bobrovsky, mais Lyon, avec son niveau de jeu en fin de saison, je pense aussi que c'est une situation bizarre. Puis ça va être intéressant de voir comment les Panthers vont s'ajuster tout au cours de la série.
Ouais, ben c'est peut-être qu'on va y aller avec Bobrovsky. Ça va être à voir là, du côté de Hurricanes, on a gagné. Donc c'est rare qu'on change une formule gagnante. On devrait peut-être y aller encore avec Ranta, malgré ce but-là qui aurait pu faire mal. Même chose du côté des Panthers. Lyon a fait des bons arrêts, mais on a Bobrovsky qui est plus expérimenté. Ça va être intéressant de voir. Un autre facteur important dans cette série-là, je trouve, là, c'est la foule à Boston qui, le TD Garden était en feu là, hier, il faut le dire. Clairement que ça a un impact. Peut-être que quand on va arriver du côté du match numéro 3 et 4 en Floride, peut-être qu'on va avoir plus facile d'aller chercher un peu plus de momentum du côté des Panthers. Ouais, vas-y.
Ouais, puis honnêtement, c'est rien contre les Hurricanes, mais changer de poste un peu, changer de canal entre les périodes, puis il y a quand même une grande différence là au terme d'ambiance entre Boston, entre le TD Garden, puis Hurricanes. J'avais vraiment l'impression que c'était une ambiance de série, un peu comme on voyait au Centre Bell dans le temps où est-ce qu'ils faisaient les séries quand il y avait pleine capacité. Fait que c'est ça, les gens de Boston sont prêts, ils ont la fièvre des séries. Puis c'est le fun de voir ça, une ville qui embarque vraiment derrière leur équipe. Puis ça a été le cas aussi dans d'autres équipes un peu plus tard, mais pour les Hurricanes,
on connaît la ferveur canadienne.
Oui, ben c'est ça, mais pour les Hurricanes, honnêtement, j'ai pas vraiment vu, peut-être que c'était juste les réglages sur ma télévision, mais on dirait que c'était un peu moins endiablé là, dans l'aréna.
Tu parles du côté des Hurricanes, là.
Ouais, des Hurricanes.
Ouais, ok, ouais, exact. Mais c'est ça, ouais, les Bruins. On connaît, puis de voir le TD Garden aussi en diable que ça rappelle des souvenirs de 2014 et toute autre série là, avec impliquant le Canadien, bien sûr. Donc, passons maintenant du côté. Puis Patrice Bergeron aussi là, a mentionné qu'il n'était pas là pour les Bruins. Quand est-ce que son retour va revenir? C'est sûr que ça a fait mal côté Bruins, mais quand même, on s'en tire très bien parce qu'on a beaucoup de profondeur chez les Bruins. Passons maintenant à l'Ouest, et toujours pas de nouvelles de M. Tardif, mais peut-être qu'il viendra. Donc, Stars contre Wild, ça a été tout un match plein de rebondissements, de controverses aussi, il faut le dire. Bon, victoire en prolongation du Wild du Minnesota 3-2. C'est une série qu'on savait qui allait être robuste, mais on a eu la preuve dans le match d'hier. Kaprizov qui répond présent avec un but en avantage numérique. sur un tir de Spurgeon de la ligne bleue en première période. Ensuite, Rupe Hintz, Jason Robertson, les gros canons des Stars qui répliquent et ça donne l'avance aux Stars. Sam Steele, en échappé, ensuite va marquer. Pas de but en troisième, pas de but en première prolongation. Ça nécessite la deuxième prolongation avec un but de Ryan Hartman à 2h du matin pile. Et c'est ce qui a sonné l'heure du dodo pour toi et moi et plusieurs autres. Quel match de fou, Greg, tes impressions sur ce match-là?
Ouais, c'est une partie extrêmement enlevante. Là. Ouais. C'était une partie qui. C'était une partie de série. Ouais. C'était extrêmement robuste. Je trouvais, surtout le Wild, c'est beaucoup plus illustré côté robustesse selon moi. On a vu les mises en échec à Dumba. Je pense qu'on on ciblait aussi quelques joueurs plus. Je veux dire, Robertson s'est laissé un peu impressionner. Je pense qu'il a un peu été effacé dans la partie numéro 1 malgré le fait qu'il a marqué. Les joueurs du Wild ont probablement rentré dans sa tête. Où, c'est peut-être quand tu joues avec une certaine crainte, ça l'affecte définitivement ton jeu. On l'a vu même en prolongation, des fois ça devient un peu moins robuste parce que les joueurs commencent à manquer d'énergie. On a vu quand même plusieurs joueurs finir leur mise en échec sur Robertson. Puis je pense que ça a eu un effet sur sa partie puis sur la partie de plusieurs joueurs des Stars. Mais quand même ils ont des joueurs assez robustes quand même là, quand on parle de Max Domi qui est venu à la rescousse de Pavelski. Dumba s'est fait tabasser là, c'était le temps que les arbitres
c'est ça Max Domi là, il tient son père vraiment là.
Ouais. Puis je pense que côté prolongation on a eu deux périodes de prolongation. Une et demie en fait, là, mais les Stars, je pense qu'ils étaient la meilleure équipe. Puis un mauvais bond, malheureusement, leur a coûté vraiment la partie. C'était un excellent duel de gardien. Il y a eu des bonnes chances.
Des gros arrêts des deux côtés.
Oui, il y a eu de très bonnes chances des deux côtés. Je pense qu'il y a eu deux échappées ou quelque chose comme ça. Ottinger s'est vraiment illustré, peut-être pas au volume, mais le peu d'arrêts qu'il a fait en prolongation, c'était des lancers de l'enclave ou des retours de lancers de. Très près dans l'enclave. Donc, malheureusement, il n'a pas été capable de remporter cette partie-là. Mais Ottinger, c'est un gardien qui commence à avoir la réputation de. C'est un joueur qui est capable de se lever quand le moment est important, malgré le fait qu'il avait perdu hier, puis la partie numéro 7 contre Calgary. C'est un gardien qui, selon moi, non, c'est ça. Je pense que c'est un gardien qui est capable de garder son équipe dans un match serré.
Tout à fait, Ottinger, sensationnel, notamment en deuxième prolongation. La deuxième prolongation, puis Gustafsson aussi a été très bon, mais j'ai l'impression là, que la deuxième prolongation, les Stars manquaient d'énergie. Je ne sais pas pour toi, là, mais j'ai l'impression qu'on avait de la misère à installer quelque chose de l'autre côté, du côté des Stars, et que ça a vraiment bénéficié au Wild, qui lui avait peut-être un peu plus de jus dans le réservoir. Et finalement, ça a coûté la victoire tout simplement du côté des Stars. Ce manque de. Est-ce que tu as vu la même chose que moi, que le Wild était plus en jambes en deuxième prolongation?
Ben écoute, il y avait beaucoup de rebondissements. Je trouvais que ça dépendait vraiment du moment. Je pense qu'en première période de prolongation, c'était vraiment le Stars qui avait pris le dessus. Ils ont peut-être eu une petite baisse de régime en deuxième période de prolongation, puis le Wild a pu capitaliser là-dessus. Mais non, je trouve. C'est sûr que quand tu es rendu à la cinquième période, tu vas avoir des moments où est-ce que tu vas peut-être pas avoir autant de momentum puis de jus qu'il y a en première période. Maintenant, j'ai trouvé le Wild était capable de sortir avec la victoire. Puis je pense qu'ils vont être très contents du résultat parce que je pense que pour une grande partie, je pense la deuxième partie de la troisième période, puis surtout la première période de prolongation, je pense que le Wild avait vraiment, les Stars avaient vraiment le momentum.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Bon, là, il faut absolument parler de la grosse controverse dans le match d'hier. Est-ce que c'était en deuxième période, si je m'abuse? Troisième peut-être?
Non, je pense que c'est en deuxième.
Deuxième période, oui. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu l'action, Matt Dumba, défenseur du Wild, qui va frapper dans l'angle mort Joe Pavelski. Pavelski, pauvre lui, rendu à 37-38 ans, vétéran respecté dans la Ligue nationale, mais là-dessus, se fait ramasser, il faut le dire, par Dumba. sa tête va heurter le sol. Commotion cérébrale qui est assurée quasiment là, là-dessus. Et il était extrêmement étourdi lorsqu'il s'est relevé. Max Domi, entre autres, est allé défendre son coéquipier. Selon toi, est-ce que on a eu deux minutes seulement sur cette action-là? Puis finalement, ça donnait un 5 contre 5 en raison de la pénalité à Domi, si je ne me trompe pas. Donc bref, est-ce que tu es d'accord avec la décision arbitrale là-dessus, Greg?
Écoute, c'est extrêmement difficile à dire, je trouve. Ouais. C'est en temps réel, le coup n'a pas l'air si en retard que ça sur le jeu.
Ouais.
Je pense que quand tu le regardes peut-être au ralenti, pour regarder plus où est-ce que le coup, où est-ce qu'il a été frappé premièrement, ça a l'air peut-être un peu late, comme on dit, un peu en retard sur le jeu, mais quand tu le regardes en temps réel, c'est pas si pire que ça de ce côté-là. Je pense que le 2 minutes était correct dans le sens où est-ce qu'il faut que tu établisses un standard, surtout dans les séries, puis que tu respectes ce standard-là. Si ce coup-là vaut un 2 minutes, il faut que les coups qui vont être similaires tout au long des séries valent aussi un 2 minutes. Tu peux pas donner un 5 minutes d'avantage numérique dépendamment des parties. Je pense que où est-ce que Pavelski s'est surtout blessé, c'est quand sa tête a rebondi sur la patinoire quand il est tombé. Je pense que le coup en tant que tel, il était haut, c'est sûr.
Pour moi, c'était un contact à la tête, là, honnêtement. L'épaule était à la tête.
Ouais. Mais c'est difficile à dire, honnêtement. Ouais. C'est extrêmement difficile. Je ne sais pas encore si Matt Dumba va être discipliné pour ça. Mm-hmm. Mais je veux dire, le 2 minutes est correct avec moi. Le 5 minutes aurait été correct avec moi. C'est juste établir un standard qui est beaucoup plus important pour moi. Puis voilà, ce standard-là tout au long des séries. Il faut garder ce même standard.
Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus qu'il faut garder la même constance dans les décisions, ouais, match après match, autant en série qu'en saison régulière. L'affaire pour moi, c'est que je diffère un peu de toi, c'est que je pense que la constance, ça serait d'y aller avec un 5 minutes. Je pense qu'en saison régulière, on serait y aller avec un 5 minutes.
Ouais, peut-être.
Puis en série, on se connaît, l'arbitrage des séries qui va être tout le temps plus permissif. Et oui, tu as raison que la blessure principale, c'est quand la tête de Pavelski touche à la glace. Peut-être parce qu'il était déjà sonné dans les airs. On se rappelle avec l'harceleur qui lui aussi avait été quasiment assommé avant de toucher la glace en 2013 contre les Sens. Bref, moi je me dis qu'il y avait la vulnérabilité dans ce coup-là. Le règlement, c'est le point de contact principal. Comme tu l'as dit, est-ce que c'est difficile à établir si le point de contact principal, c'est à la tête? Personnellement, j'ai tendance à dire que oui, que l'épaule était directement à la tête, mais c'est difficile à juger, surtout en temps réel.
Ouais.
Et bref, est-ce que ce plaquage-là était vraiment utile? Tant qu'à moi, non. Bref, je me dis, personnellement, bon, c'est vraiment difficile à juger. Je serais allé avec un 5 minutes. Mais regarde, il y a matière à discussion, c'est sûr et certain.
Je sais aussi qu'ils ont eu droit à une révision. Je le crois. Oui, ils sont allés à la révision.
Exact. Donc, ils ont changé la décision. Je pense qu'à la
base, ils ont changé la décision même. Ouais. Donc, je pense, qu'est-ce qui a peut-être changé la donne, c'est que le fait que, sûrement que le coup, on a décidé que le coup n'était pas en retard. Comme tu as mentionné, c'est difficile à dire si c'est à la tête, peut-être qu'ils ont leur donné le bénéfice du doute parce que Dumba est resté sur ses pieds, il n'a pas sauté pour faire le coup, peut-être qu'il est tombé par la suite à cause de l'impact. Puis aussi, son coude est resté sur le côté de son corps, on n'est pas allé frapper Pavelski avec le coude en premier.
C'est pas un coup de coude, ouais.
Donc, tu sais, toutes ces choses-là ont fait que peut-être que on a pensé que ça valait pas un 5 minutes, surtout dans une partie en série qui est très serrée. Là. C'était une partie de 1 point à ce moment-là. C'était 2-1 pour les Stars. Ouais. Donc, on voulait peut-être pas leur... C'est dommage à dire, mais on voulait peut-être pas leur donner un autre 5 minutes. Il faut aussi préciser que leurs 2 buts avant ça était en avantage numérique, donc peut-être que tous ces aspects-là, malheureusement, même si ça ne devrait pas, ont un impact sur... Parce que rendu en série, des fois, les arbitres, on va se le dire,
c'est plus permissif, ben oui.
Ouais. Puis on veut un peu plus contrôler la partie. On l'a vu aussi dans la partie des Oilers et des Kings, que c'est aussi, bien sûr, on va en parler là, du côté des arbitres. Uh-huh. Donc, ben, c'est quelque chose qui va tout le temps faire parler, là, mais comme j'ai mentionné, c'est le standard, c'est la constance. Puis si on voit ces gestes-là plus tard, il faut garder cette même constance-là.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Puis c'est fâchant que. Par contre, comme tu le dis, que peut-être à cause, tu sais, si c'était 5-0, ouais. On l'aurait appelé le 5 minutes. Mais là, que vu que c'était 2-1 et que c'était très serré, ça a peut-être influencé la décision des arbitres. Ça, c'est quand même dommage. Mais bref, voilà. Première controverse dans ces séries éliminatoires. Fallait en prévoir, puis on en a eu une dès la première soirée. Donc, voilà, c'est pas mal ce qui conclut ce match-là. Tu as parlé de l'avantage numérique qui, dans tous les matchs d'hier, a été important, notamment dans les deux matchs de l'Ouest, là, où est-ce qu'il y a eu des buts en avantage numérique, puis même dans les matchs de l'Est. Fait que bref, le Wild, le Wild se sauve avec la victoire en prolongation, et Joe Pavelski, d'après moi, on ne le verra pas dans cette série-là, peut-être même pour le reste des séries, malheureusement pour Joe. Ce qui nous amène à notre dernier match de la précédente soirée, donc, celui entre les Kings et les Oilers. Et là, M. Vincent Tardif n'est toujours pas là, donc il faut voir qu'il ne viendra pas.
Mais sûrement en train d'écouter les Rangers et Devils.
Ouais, peut-être qu'il nous a
abandonné. 1-0 Rangers en passant, Tarasenko qui ouvre le pointage.
Oh, 1-0, Tarasenko ouvre le pointage pour les Rangers. Intéressant, ouais. Intéressant. Donc, les additions qui payent du côté des Rangers jusqu'à maintenant. Bref, pas de Tardif pour cet épisode, on dirait bien. Mais voilà, Kings Oilers, Greg, victoire des Kings en prolongation, et c'est un match échappé par les Oilers, faut le dire, par l'indiscipline entre autres. Leon Draisaitl, Evan Bouchard qui marque en première période, pas de but en deuxième. Une deuxième période plutôt tranquille, très tranquille, où j'ai l'impression que les Kings ont calmé le tout, éteint les Oilers un peu pour ensuite revenir en troisième période avec Adrian Kempe. Opportunisme ici va marquer. Leon Draisaitl, gros match de sa part, fait 3-1 pour les Oilers, mais ensuite Kempe, encore une fois un but de sa part, lui qui a plus de 40 buts cette saison, et à 16,7 secondes, Andrzej Kopitar qui va créer l'égalité en avantage numérique, donc indiscipline du côté des Oilers ici, et en première période de prolongation, un tic-tac-toe, Alex Iafallo va venir faire très mal aux Oilers, encore en avantage numérique. On a une controverse aussi là-dessus au niveau d'une pénalité à Vincent Desharnais. Encore une fois, une controverse. Bref, Greg, parle-moi de cette rencontre-là qui, encore une fois, très enlevante.
Ben écoute, comme tu as mentionné, là, c'est les Oilers complètement qui ont échappé cette partie-là. Il y avait l'avantage 3-1, tard, ben pas. En troisième période, il y avait l'avantage 3-1. C'est une partie que, surtout en série, tu dois être capable de shut down l'adversaire, être en mesure de vraiment leur limiter leur opportunité en attaque. Puis, ben, si tu veux limiter leur opportunité en offensive, tu dois éviter à tout prix le banc des pénalités, ce qu'ils n'ont pas fait, mais loin de là. Puis aussi, crédit aux Kings pour ne pas avoir abandonné. Moi, honnêtement, à 2-1, surtout à 3-1, j'avais plus vraiment espoir pour les Kings, honnêtement. Puis on était capable de revenir dans cette partie-là. Voilà. Puis aussi crédit à Andrzej Kopitar, Kempe, puis Kopitar 4 points, Kopitar 2 buts. On était capable de faire la différence dans cette première partie-là. Puis aussi une confrontation intéressante entre Dano et McDavid. McDavid, il y a eu des très bons flashs offensifs.
Ouais.
Par contre, aucun point, moins 2 dans sa première partie.
Joueur de série! Il y en a plein qui diraient ça, on va se calmer. C'est...
Quand même, 32 points à ses 17 derniers matchs, là, malgré le match d'hier en série. Ouais, c'est ça. Donc, Dano a fait une très bonne performance en côté, dans son territoire. Là. On est habitué à ça, les fans du Canadien. On l'a vu en 2021 avec Marner, Matthews et compagnie tout au long des séries. Donc, ça va être intéressant de voir pour le restant de la série. Surtout que là, il n'y avait pas le dernier changement, les Kings. Donc, surtout là, quand on va être rendu à Los Angeles, ça va être intéressant de voir à quel point Dano va être capable d'un peu effacer McDavid de la feuille de pointage.
Tout à fait. Puis McDavid, je pense que si je me rappelle bien la statistique qu'ils ont montré hier, c'est un 8e match seulement pour lui dans toute la saison, l'incluant la saison régulière, 100 points. Donc, qui n'a marqué aucun point. Fait que 8 matchs sur 83. Alors, je ne sais pas s'il a joué tous les matchs cette saison. Fait que bref, c'est fou et ça arrive vraiment pas souvent. Je pense qu'il marque plus souvent des matchs de 3 ou 4 points que de 0.
Peut-être
même 5 points. Fait que c'est absolument c'est fou. Mais vraiment, par contre, il faut que McDavid s'inscrive au pointage pour que les Oilers performent, ça c'est sûr. Hier, ils auraient très bien pu gagner sans que McDavid soit inscrit à la marque, mais c'est sûr que si McDavid fait des points, ça va grandement avantager les Oilers. Tu as mentionné, il y a eu des très bons flashs offensifs malgré tout. Mais il faut souligner encore une fois, avantage numérique, opportunisme du côté des Kings. Je pense au but de Kempe, entre autres, qui sont sortis un peu nulle part sur une mise au jeu, genre. Donc, c'est des clés en séries éliminatoires. L'avantage numérique, eh bien, en fait, les unités spéciales tout court et l'opportunisme. Une autre controverse qu'on peut parler encore, Greg, ou à moins que tu aies quelque chose à dire d'autre sur cette rencontre-là, mais la pénalité à Vincent Desharnais pour trébucher, qui a mené au but de Alex Iafallo, le but gagnant. Puis j'ai l'impression, en revoyant le jeu, que c'était Lizotte, je crois, qui a trébuché là-dessus. Je ne sais pas si il a trébuché par lui-même ou si c'est vraiment le bâton de Desharnais. Fait qu'il y avait matière à controverse encore une fois là-dessus. Là.
Tu peux pas appeler cette pénalité-là, je veux dire. Surtout, c'est facile à dire en plus hein, après, là, quand on sait toutes les conséquences, puis on a vu la reprise au ralenti, mais je pense que c'était pas une matière à pénalité. Je pense que Lizotte, je veux dire, surtout en prolongation, là, on le sait, on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de pénalités appelées. Puis là, surtout une pénalité qui était... On n'était pas vraiment certain. Il a fallu la reprise pour voir si c'était vraiment une pénalité. Puis finalement, on a pu voir que Lizotte, finalement, il est plus tombé par lui-même que par le bâton de dernier. Les arbitres, ils peuvent pas voler le spectacle. On a vu tout dans le match, ils ont donné deux pénalités aux Kings dans l'espace de comme 30 secondes pour leur donner pour donner aux Oilers un 5 contre 3. Par la suite, ils ont donné 6 des 7 prochaines avantages numériques aux Kings, puisqu'il a coûté la partie aux Oilers là, à la fin. Donc voilà, tu peux pas appeler autant de pénalités que ça à des moments autant critiques, à moins que ça soit là, vraiment flagrant, ce que je pense que la majorité des pénalités n'étaient pas autant flagrantes. On a parlé de standard, là, j'ai surtout parlé de standard.
Tantôt, ouais, sur Pavelski, ouais.
Ouais, puis je pense que ce standard-là devrait être un peu moins sévère, surtout rendu en série, surtout rendu en prolongation. Je pense que tu ne peux pas appeler cette pénalité-là sur Desharnais, honnêtement.
Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Il y a même une partie de bâton qui traînait sur la glace et je me demande pas si ça c'est un peu ça que, sur là-dessus que Lizotte a trébuché. Peut-être que c'était aussi du très bon acting de la part de Lizotte là-dessus, on ne sait pas. Mais bref, je suis d'accord avec toi qu'il n'y avait pas matière à pénalité. C'est une autre controverse. Mais oui, il y a une erreur arbitrale là-dessus. Ça reste que les Kings doivent être plus disciplinés. Vincent nous en parlait hors ronde hier soir. Le but égalisateur de Kopitar en troisième, c'est sur un avantage numérique également. Et donc, tu sais, avec plus de discipline, peut-être que les Oilers n'ont même pas besoin de la prolongation. Donc, bref, on l'a dit, là, c'est les Oilers qui ont échappé ce match-là. Est-ce que tu penses qu'ils vont rebondir au prochain match et aller gagner ça? Moi, personnellement, je m'attends à un gros festival offensif des Oilers prochain match. Ouais. Ils sont capables de le faire.
Ben écoute, je pense pas que McDavid va se faire effacer, va être absent de la feuille de pointage pour un deuxième match consécutif, surtout pour rentrer en série. J'ai encore très confiance en les Oilers, là, surtout en Draisaitl. En tout cas, leur noyau offensif qu'on connaît. J'ai peut-être un peu plus de doutes. J'avais peut-être un peu oublié l'ampleur de à quel point c'est important d'avoir des centres qui sont bon, des deux côtés de la rondelle, en Dano, Kopitar, etc. Peut-être que ça ne va pas être en 5 comme j'avais prédit. Là. Il faudrait qu'ils gagnent 4 de suite. Mais j'ai encore confiance en les Oilers ultimement.
Je suis d'accord avec toi. Je m'attends vraiment à Un changement de scénario flagrant, là, le prochain match, un 5-6 buts marqués du côté des Oilers. Mais les Kings nous ont surpris. Nous ont surpris quand même l'an dernier aussi avec une série en 7 matchs. Ils peuvent toujours le faire. Donc voilà, c'est ce qui conclut l'analyse des 4 matchs d'hier soir. Là, les Oilers, les Rangers ont pris les devants 2-0 dans le match entre les Rangers et les Devils. Donc,
on parle d'avantage numérique.
On va se regarder à notre téléviseur pour aller voir ça.
Ouais, on parle d'avantage numérique, c'est encore ce qui coûte aux Devils. Là. Oh, c'est un gars en avantage numérique pour Kreider.
The Kreider, oh, Chris Kreider, le classique avantage numérique du côté des Rangers. Bon. Fait que Greg, merci beaucoup. On va aller regarder les matchs de ce soir. Puis on vous revient avec un autre épisode de Aux Premières Loges dès demain. Merci beaucoup et à bientôt.